L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration.
Sous-affirmement muet, éternel et indifférent, englouti par un hiver aussi ravageur qu'interminable, le dernier cri d'une créature insoumise en même à sa mort, entendez hurlement sur la toundra! Salutations hurlantes à vous, horde damnée des noirceurs éternelles! Et bienvenue à Hurlement sur la toundra!
Cette émission culte consacrée au black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CVRT 107,3 et Calhuit, et diffusée au-delà de la toundra jusqu'à vos propres landes, notamment à Québec avec CKIA 88,3, à Yellowknife avec Radio Taiga CIVR 103,5, à Fredericton avec CJPN 90,5, à Saint-Jean avec CHQC 105,7, à Miramichi avec CKMA 93,7, à Moncton avec CKUM 93,5, Université de Moncton, à Sackville avec CHMA 106,9, Mount Allison University, à Gravelbourg avec CFRG 93,1 et à l'international avec la station de radio Internet RadioQuébec.biz. Et moi,
je suis Nafre,
votre guide tout au long de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. À chaque semaine, nous partons vers les quatre coins de ce monde infect et je vous conduis ainsi dans cette quête sans fin, celle de découvrir les plus puissants et terribles mystères de notre culte et d'approfondir votre dévouement en tant que ses disciples. Notre stratégie est simple. Avec chaque épisode, une thématique et une exploration singulière vous est proposée, nous permettant d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. En suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux, que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve à savoir. Pour le rite radiophonique de ce soir, cadavérique auditeur, nous allons vous proposer un raffinage idéologique du culte black, une étude approfondie de ses obscurités sulfureuses afin de découvrir les fondements indispensables au furieux battement de son cœur noir comme de la suie. Ici, on ne va pas vous étaler une narrative de péripéties historiques, aussi intéressant que cela puisse être. Plutôt, nous allons retenir et revoir toute sa sombre histoire, sa symbologie biscornue, les paroles endiablées de ses artistes et les propos cataclysmiques de ses prophètes pour arriver vraiment à l'essence même du black. Et pour ce faire, et ainsi vous présenter la thématique du présent épisode, nous n'avons qu'à tourner nos cœurs cruels vers la formation britannique Venom, si pas les patriarches fondateurs de notre vipérine tradition, alors ses concepteurs les plus définitifs. Car même avant d'avoir relâché en 1982 la monstruosité à point nommé Black Metal, un album qui baptisa d'un seul coup ce culte de la malveillance, le Triumvirat fit paraître l'année d'avant leur tout premier full-length, le magnifiquement sardonique et bestialement ravageur Welcome to Hell. Avec un titre comme celui-là servant de bannière de guerre, il était évident que ce qui allait suivre sera une furie infernale, cacophonique et brutalement réelle. Alors, si nous pouvons réduire la philosophie black à son essentiel, il n'y a de genèse plus évidente, de point de départ de plus certain que celui de l'idée de l'enfer, d'un monde souterrain saine des émotions les plus vives et des sensations les plus fortes. Dans une telle géographie de l'esprit, la contrée des régions infernales, peu importe le nom qu'elle portera, est bel et bien la mère patrie du black metal et l'objectif de notre pèlerinage ce soir. Alors, sans plus tarder, tels l'ont fait Dante, Ishtar, Orphée, Osiris et même Jésus, lançons-nous dans cette fatale descente vers les enfers avec un premier bloc de black diabolique issu des profondeurs de la mort, de la souffrance et de la rage. En premier, je vous présente Tyrfing, une formation suédoise qui nous propose un métissage méphistophélique d'obsession viking et de malveillance luciférienne. Les cinq membres ont fondé le groupe en 1995 et depuis, ont produit non moins de 7 albums, chacun redoutablement bien réussi et reçu par l'underground avec forte acclamation. portant le nom d'une épée damnée qui fait souvent son apparition dans le folklore de pays natif. Le culte tranche et pulvérise tout sur son passage. Et c'est ce qu'ils vont faire avec la pièce Far Ut Helvete, la première piste de l'album Far Ut Sider de 2005. Tout simplement, le titre se traduit en suédois ainsi « Va aux enfers » ou « Go to hell ». Et il est clair, en lisant les paroles, que l'intention est mortellement simple. Un gros « va chier » à la plèbe merdique, malingre et affaiblie qui nous entoure, un déchet existentiel à éliminer par le fléau de la rage « Black Metal ». Outre le châtiment brûlant et la sulfureuse torture de Tierfing, nous en avons une autre, cette fois une lancée non pas au visage de l'humanité, mais au joug divin qui aurait condamné Lucifer, le plus fier et beau des anges, aux profondeurs du gouffre éternel. Toutefois, même si dans une obscurité si complète, l'astre matinal ne connaîtra plus sa lumière, ces circonstances fatales y sont maintenant une source de force et de puissance pythonienne, prête à être relâchée pour le renouveau infernal. Et le prophète de cette liturgie est le maître profane, fondateur du projet occitan Chaos Day. Il n'y a que deux seuls albums à son actif, tous deux parus sur Osmose Productions, mais calvaire, c'est pas juste qu'il y a du mordant là-dedans, ça arrache. Écoutez, on nous décrit parfois l'enfer comme un endroit où les damnés se grincent les dents dans l'accablement de leur rage. Et musicalement, c'est précisément ce que Chaos Day nous offre. En lien avec la présente thématique, nous allons écouter un titre de son premier effort, Tell Them Lucifer Was Here de 2015, la chanson Dans l'enfer plombant. C'est une telle déclivité, une telle chute acrimonieuse qui vous attend, et nous avons à suivre Chaos Day là où nul oserait mettre le pied. Mais en premier, voici la révocation belliqueuse promise à Far Ut Helvete de Tierfing. Et voilà, on vient d'avoir débuté notre soirée avec les plaintes souterraines du culte suédois Thierfing qui nous ont offert Far Ut Helvete, immédiatement suivi de Chaos Day et sa cantique caverneuse dans l'enfer plombant. Ce lieu de l'enfer, endroit craint avec tant de frayeurs spirituelles, souvent exploité par le pouvoir ecclésiastique pour renforcer l'asservissement ignare de la horde croyante, est pourvu d'une riche et très complexe histoire, bien plus que dans le commun des mortels nous pouvons apprécier. La plupart d'entre vous, vous allez être capables de reconnaître que ce concept d'une localité infernale où séjourneront criminels détestés, personnes amorales et hérétiques délétères est rattaché à celui d'un paradis, les cieux où finiront l'élite miséricordieuse en guise de récompense pour leur conduite selon les règles de leur religion. Une vision qui est surtout le produit de l'époque médiévale. Mais si on s'attardait à explorer cela un instant de plus, surtout par rapport à son développement au fil des millénaires par des penseurs chrétiens, mais aussi par les paroles de Jésus lui-même et avant lui, celles des prophètes hébreux, nous verrons que l'idée a subi, et subit toujours, il faut le dire, une évolution constante. Alors qu'en 1992, le pape Jean-Paul II annonça officiellement que l'enfer était maintenant un état d'esprit défini par l'éloignement spirituel volontaire de Dieu et de sa lumière vivante, à l'époque de l'Ancien Testament, l'après-monde ne comprenait qu'un seul endroit, le Sheol, le ténébreux domaine des morts où tous les défunts, les justes et les bienheureux, comme les injustes et les malheureux, errent langoureusement, sans souci des choix moraux de la vie, hantant ce lieu de profond silence et de noirceur la plus complète, coupée de toute vie. Ce n'est que beaucoup plus tard, avec les développements du Second Temple, que l'idée s'est complexifiée, possiblement en raison de l'influence hellénique omniprésente dans tout le Moyen-Orient. Ainsi, le Sheol commença à être divisé en différents niveaux, certains habités par des bons âmes, d'autres par des mauvais, dans une espèce d'hiérarchisation reflétant la structure sociale terrestre souhaitée, une imaginative métaphore très utile pour affirmer le pouvoir des prêtres, qui alors se consolidait de plus en plus dans les royaumes juifs. À ce concept fut associé un autre endroit, appelé « abandon », signifiant en hébreu « destruction » ou « abîme », correspondant au Apollyon des Grecs, qui, pareillement au Sheol, n'était qu'au début un simple gouffre symbolique de la mort, mais progressivement devenu, surtout dans le livre de Job et celui des Proverbes, une métaphore pour l'anéantissement des âmes de personnes malveillantes défuntes. Avec l'apparition du soi-disant Messie des Juifs, Jésus de Nazareth, est venue cette idée empruntée des textes et enseignements apocalyptiques, tels le livre d'Énoch et le livre de Daniel, qui expliqua le déroulement fatidique de l'histoire comme un cheminement vers une fin cataclysmique dans laquelle vont se confronter les forces du bien et du mal, un peu comme serait auparavant arrivé lors des batailles des anges déchus et encore la purification du monde par un grand fléau. Et dans une telle dramatique récurrence cosmique, Dieu jugerait les hommes selon leur caractère moral. Pour les mauvais, ils seraient condamnés à ce que Jésus appelait la Géhenne, ou vallée de Hinnom en hébreu, un endroit véritable qui aurait peut-être été un genre de dépotoir, donc un lieu où serait consigné tout ce qui était maudit et déchet. Mais fort probablement, ce nom fut choisi en raison du fait qu'il est le site de sacrifices humains, notamment d'enfants, au dieu cananéen Moloch. Bien que ceux-ci étaient jetés vifs dans le feu, et alors que l'horreur de l'immolation était puissamment évocatrice pour quiconque, l'association fut plutôt utilisée pour condamner ceux dont les allégeances demeuraient aux dieux païens. Donc, dans cette idée de la Géhenne, c'est peut-être pas vraiment un rappel à suivre le chemin valeureux, mais plutôt une tactique sectaire. Et bien sûr, il y a cette image qui nous fut prodigée, celle du lac de feu. Plus tard, toujours dans cette époque qui a vu la genèse du christianisme, nous avons l'apparition de Tartaros ou Tartare en français, un terme déjà noté dans l'Ancien Testament et emprunté des Grecs qui le voyaient comme une région aride et brumeuse, dont le paysage est accentué que par des étangs glacés, des lacs de soufre, des fleuves boueux et des marécages à l'odeur nauséabonde. C'est là que serait situé le palais de Hadès et, selon Homère, la redoutable prison des criminels mythiques et des titans et géants déchus qui auraient à y subir éternellement des châtiments de toutes les sortes. Approprié par l'auteur du livre des Révélations, Tartare devint le dieu des anges déchus, ou l'enfer en général. Il nous dit, et je cite, « Puis je vis un ange descendre du ciel, tenant à la main la clé de l'abîme. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, nommé Tartare. » Pour vous aider à connaître ces trois endroits, comme Faust accompagné de Méphistophélès, nous allons y rendre visite sur les airs sabbatiques du black metal. et prenons-nous-y dans l'ordre inverse en suivant progressivement vers la nuit des temps l'invention de l'enfer chrétien. En premier, nous allons nous rendre au Tartare avec Nazgor, une autre formation suédoise follement obsédée avec les enseignements infernaux et qui, bonne chose faite, produit un black metal mauditement accrocheur. Parmi leurs nombreux titres, non moins de 6 depuis 2012, nous allons nous pencher sur Through Darkness and Hell, paru en 2014, qui a comme huitième piste la chanson From the Womb of Tartarus, un hymne à cet endroit que les musiciens identifient comme source de la vie, un paradis pour l'élite cotonienne. Et en deuxième, rendons-nous en Guyenne, aux côtés de Clovenhoof, une formation du New Wave of British Heavy Metal et, à proprement parler, du bon power metal classique, qui néanmoins pourrait être compris parmi les groupes de la première vague de Black, surtout en raison de son imagerie satanique. Ce n'est vraiment pas aussi âcrement méchant que du Venom ou saignant comme du Hellhammer, et après tout, on est déjà en 1984. Mais en même temps, on n'est pas si loin des excès diaboliques de Mercyful Fate non plus. Et en plus, écoutez-moi ça, les premiers coups de riff sont drôlement similaires à ceux du Evil Elvis Glenn Danzig lui-même, qui s'en est sûrement inspiré pour composer son classique Am I Demon. Alors, autrement dit, ça mérite l'écoute en tabarnak, et c'est ce que nous allons faire en vous passant The Gates of Gehenna, une descente en enfer en 4 parties dans rien que 5 minutes et demie. Et finalement, on finit le bloc en arrivant à Abandon, la patrie de la destruction sans fin, annoncée par les airs menaçants et harmonies caverneuses de Valoton, une formation finlandaise bien mystérieuse dont les membres sont inconnus, mais dont la musique ne laisse nul doute quant à leurs intentions, vous induire en cauchemar ontologique aussi interminable que le gouffre mondial sans fond. On écoute alors à leur effort de 2010, Beastificate, la composition Jaws of Abandon, une pièce qui inverse le salut chrétien pour la noire illumination de Satan et la torture punitive de l'enfer pour l'asthénie de l'âme, punition réservée pour nos faibles prochains incapables d'accepter le don des ténèbres. Alors, quittons notre monde pour ce passage musical tonitruant. Nous avons Jaws of Abandon de Valoton, précédé de The Gates of Gehenna de Clovenhoof, et tout cela commence par From the Womb of Tartarus de Nazgar! Yeah! Vertigineux et violent comme l'essai démonique qui va vous saper l'âme tout en nourrissant vos terreurs. On vient de subir l'admonestation ardente de Valoton, Jaws of Abandon était le titre, et elle a suivi Clovenhoof avec sa séduisante pièce The Gates of Gehenna. Et le bloc de ces trois chansons a commencé avec la symphonie démoniaque From the Womb of Tartarus de Nazgor. Sur ce, nous sommes à la fin de cette première partie d'un épisode vous présentant une descente dans les enfers et ainsi dans le souterrain épistémologique du black metal. Lors de cette première partie, on s'est tenu à explorer les mondes de l'outre-tombe judéo-chrétien, mais le black metal, aux aspirations autant éparses qu'ambitieuses, en a bien encore à vous faire vivre et découvrir. Mais, chers cadavres, nous sommes pour l'instant arrivés au temps d'une pause. Notre patibulaire voyage va reprendre les quelques instants qui vont suivre. Répondez alors à notre exhortation maudite. Rejoignez la meute ici, sur les ondes de votre radio communautaire, pour entendre nos hurlements sur la toundra. Bon retour à cette exploration du culte black metal qui est hurlement sur la toundra. Vous êtes accompagné de Nafre, le magistère culti de l'émission, et notre thématique ce soir, je vous le rappelle, en est une qui a l'intention de cerner l'essence même du black metal, ce que nous faisons en vous proposant un périple aux enfers. À date, je vous ai fait un survol de la région infernale selon le dogme chrétien, ainsi que ses fascinants précurseurs juifs et helléniques. Et par là, nous en sommes venus à apprécier que nous ne pouvons pas réduire l'idée de l'enfer à un simple site de tourment éternel, établi afin d'affirmer une vision dualiste de l'existence. L'enfer, le Tartare, la Géhenne, l'Hadès, ou comment tu veux l'appeler, c'est à vrai dire peut-être même le monde original de l'après-mort, celui qui est, par son caractère universel, la meilleure manifestation du sort qui a dans l'humanité, mais aussi qui exprime le plus précisément et adéquatement l'essence de la condition humaine. Si la première noble vérité des quatre principes fondamentaux du bouddhisme peuvent nous servir d'arguments supplémentaires, la vie est souffrance! Ainsi serait la vie de l'âme après le trépassement de son misérable et fragile corps. Une existence de souffrance surnaturelle, indéniable et aussi interminable que la terre elle-même. Alors, nous pouvons en conclure que l'enfer, c'est en réalité ce que nous sommes, c'est nous. Cela est une extrapolation philosophique facile à confirmer si nous examinons les croyances des cultures traditionnelles d'ailleurs dans le monde, ce que nous allons faire au dernier bloc, ou si nous remontons à des temps encore plus anciens que celles des patriarches bibliques, donc à l'époque des anciens mages mésopotamiens qui autrefois œuvraient dans l'ombre des terribles ziggurats. Pour cette première instance, on va vous présenter Helvetron, une formation texane d'El Paso, un contingent cadavérique de Black and Death Doom des plus pesants et étouffants qu'ils soient. Et tant mieux, car sur leur album et seul full-length à leur actif, Death Scrolls of Seven Hells and Its Infernal Majesties de 2012, le duo de Sazgu Laza et de Halal Zakstur interprète de façon imposante la légende antédiluvienne d'une région souterraine qui serait en quelque sorte l'origine de l'enfer juif. Leur courte mais menaçante pièce, Titaion Foul Eaters of the Clay of Death, y fait par son titre spécifiquement référence, même s'ils ont transposé le démon Asmodée pour la déesse Ereshkigal comme souverain du sépulcral domaine, et choisit de délaisser son nom de Kuku Irkala ou Kur pour celui de Titaion. L'endroit qui est ici décrit est forcément le même, un lugubre royaume souterrain sous forme d'énormes cavernes situées au beau fond de la terre, dont les habitants étaient une multitude de démons, mais aussi les âmes des défunts. Là, ils continuaient d'y vivre une version sombre de leur existence terrestre. Mais en tant que malheureux spectres, ayant comme seule nourriture, malgré leur soif aiguë, une terne et grise poussière sèche. Pour nous, malgré les millénaires qui nous séparent, voyons-y tout de même un pertinent rappel que nous ne sommes que cette même matière. Ou comme le rituel catholique de mercredi des cendres nous le funestement rappelle, « Tu n'es que poussière et reviendras à la poussière ». C'est un bel énoncé résumant dans un langage métaphysique le unheimlich ou inquiétante étrangeté de celui dont la perspective met à nu la vacuité de l'existence et son asservissement à la matière. Autrement dit, même au milieu de la vie, nous sommes dans la mort! Et suite à cela, nous allons y séjourner un moment de plus, accompagné par la formation Black Folk israélienne Melekesh, qui à leur tour, sur leur majestueuse offrande de 2001, exploite l'idée de cette même fascinante géographie morbide avec leur composition Kurnugi's Reign. Mais cela, le Quatuor le fait selon une perspective précise, voulant reprendre la fameuse Katabasis, ou descente aux enfers, de la déesse Inanna, autrement appelée Ishtar, et sœur de la submentionnée Ereshkigal. celle-ci osa y faire un périple là où tous entrent, mais nul ne peut sortir, et où elle eut à subir une variété de tortures et d'épreuves diaboliques, même sadiques. Le penseur Joseph Campbell, reconnu pour son application de principes jungiens à l'étude comparative des mythes et religions, a interprété ce mythe comme un outil d'affirmation du pouvoir psychologique de l'individu qui, en faisant une descente dans son propre inconscient cauchemardesque, pouvait alors réaliser ses forces intérieures à travers d'un épisode d'impuissance aiguë et l'acceptation de ses propres qualités négatives. Cela concorde très bien avec plusieurs mythes et légendes autochtones, surtout quant aux croyances chamaniques, les chamans ayant à subir une initiation qui impliquait une descente aux enfers, une destruction de l'ego, une union spirituelle avec une ou plusieurs entités démoniaques et, finalement, une résurrection et un retour transformatif au monde des mortels. Et bien entendu, hurleur de la toundra, cela concorde aussi terriblement bien avec l'impératif black metal, de notamment nous faire descendre aux régions les plus mystiquement troublantes et les plus intellectuellement bouleversantes que vous puissiez vivre, un baptême de feu noir de désespoir et de sang bouillonnant de toute rage. Pour vous en faire des preuves, je vous appelle alors à éprouver la calamité initiatique de ces deux prochaines pièces. Kurnugi's Reign de Melekesh, mais en premier, voici Foul Eaters of Clay and Death de Helvetron!
We'll be right back.
crisse de bon riff au tout début. C'est à vous rompre l'âme, n'est-ce pas les cadavres? C'était le culte des déserts israéliens Melakesh avec leur cantique empyrumatique Kurni's Rain, précédé de la cendreuse hymne Titaion Foul Eaters of Clay and Death de Helvetron. Comme dernier bloc et, si on veut, dernier argument à notre explication de la fonction spirituelle du black metal, je vais vous présenter trois autres versions de l'après-monde souterrain. Mais cette fois-ci de sociétés qui développèrent ces croyances de façon indépendante et séparée, mais que chacune d'elles retrouve sa voix dans la cosmogonie black metal. En premier, parlons d'antique folklore celtique, courtoisie de Black Funeral. Une autre formation du Texas, cette fois-ci de Houston, formée par les maîtres Actia Nactoter et Nazgord Darkenhof, qui ensemble proposent un rêche et cruel black metal vampirique. On peut compter 9 albums avec eux depuis 1993, mais c'est leur dernier intitulé Anku and the Deathfire de 2016 qui nous intéresse à présent, surtout parce qu'il s'inspire de la mythologie bretonne et ultimement celtique. En particulier, nous allons vous faire jouer la pièce Gwyn Ap Nod, King of the Underworld, et allons le faire pour vous parler de Anwan, le monde encore une fois souterrain de l'au-delà, mais cette fois merveilleux au lieu d'être sinistre et souffreteux, où les plaisirs fériques règnent, où la jeunesse est éternelle et où la nourriture est abondante. Cela est peut-être ainsi, étant donné cette curieuse croyance de la transmutation des esprits chez les peuples celtiques, notez même chez les chroniqueurs romains et grecs classiques. Selon eux, les Gaulois et autres nations similaires s'imaginaient qu'une naissance dans ce monde signifiait un décès dans l'autre monde, le plus parfait des deux, et alors qu'une mort ici aurait voulu renvoyer l'âme du défunt à sa source immortelle, qui est bien entendu le Anwin. Nous pouvons peut-être en déduire que, par extension, ce monde est en fait le moins parfait, celui assujetti par une multitude accablante de calamités, ponctuées par mille et une tragédies, donc le véritable enfer des hommes. À écouter les paroles de la pièce que nous allons entendre de Black Funeral, nous pouvons certainement en conclure que la vie est cruelle. The chilling winds of autumn, the horde of darkness rise. Upon steeds and wolves with demonic faces gather, tonight the wild hunt rides. Gwyn Ap Nod, libations to the ancient god. No prayers may save your human prey. Fast on the dark skies, a huntsman in the devil's mask, screaming upon the night sky. Triumphant glance across the haunting moon, let our noise terrify. Ideal in death, the wolves and hounds tear life away. Bien certainement, avec de telles forces nous dominant de tous bords et de tous côtés, la vie est tout simplement infernale. Et suite à un passage dans le monde celtique, découvrons celui des Norse et autres peuples germaniques qui nous ont raconté l'histoire du Niflheim, un des 9 mondes et avant tout, un royaume de glace et de froid primordiaux, avec les rivières gelées de Elivagar et le puits de verre Gelmir, d'où proviennent toutes les rivières. Selon le Gylfaginning, Niflheim était le deuxième des 2 royaumes primordiaux à s'émanciper du Gwyngungagap, l'autre étant Muspelheim, le royaume de feu. Entre ces 2 royaumes de froid et de chaleur, la création a commencé lorsque ces eaux se sont mélangées à la chaleur du Muspelheim pour former une vapeur créatrice. Plus tard, il devint la demeure de Hel, une déesse fille de Loki, et pour ses sujets, un monde de l'au-delà réservé pour ceux qui ne moururent pas de façon héroïque ou notable, donc autrement dit, un enfer viking par lequel la lâcheté, la vilainie et la faiblesse seraient punies. Donc, autrement dit, un enfer viking par lequel la lâcheté, la vilainie et la faiblesse seraient punies. Malgré cela, les musiciens qui vont nous y accompagner ne sont certainement pas de tels vils individus, mais plutôt de redoutables guerriers de notre propre scène de black québécois qui ont ensemble formé le formidable bataillon Veneficium, qui depuis leur seul album Full Length et dernier effort de 2008 s'est malheureusement dissous pour sombrer dans l'obscurité de l'underground. Néanmoins, leur œuvre est en tout point honorable et digne de sa propre existence après vie, chose que nous allons maintenant garantir ce soir en faisant résonner leur musique maudite sur la vaste de toundra. Et pour ce faire, écoutons à la composition Niflheim de leur démo de 1998, un petit trésor de ma propre collection de cassettes rares. Et finalement, découvrons le monde souterrain de mes voisins Inuits qui ont à eux une vision spécifique du monde de l'outre-tombe. Pour ce faire, nous allons vous faire jouer une pièce de Katie Metcalf que j'ai connue grâce à sa collaboration avec le projet black américain Crown of Asteria, l'album de poésie et de musique ambiante Arctic Fever paru en 2017. Sur cette offrande paraît la composition si simplement intitulée Beluga, qui fait référence à Sedna, la déesse non pas d'un autre monde souterrain, mais sous-marin. Connue aussi par le nom de Nulihaluk, celle-ci est particulièrement importante pour les Inuits, un peuple de haut et en large et depuis toujours maritime, qui se nourrit de l'abondance de l'océan. Selon la légende, Sedna aurait été une belle fille qui, étant prise en otage par un maléfique chaman, a un jour voulu s'échapper en s'agrippant au kayak de son père. Mais ce dernier, craignant l'arrivée du chaman sous la forme d'un énorme et terrifiant corbeau, lui frappa les doigts et les mains avec sa pagaie, les lui fracassant en morceaux qui vont plus tard devenir des mammifères marins tels des phoques, des morses et bien entendu des belugas. Et elle, Sedna, étant ainsi rendue infirme, sombra dans les profondeurs, où elle devint une tempétueuse sirène et féroce déesse des mers. Les chamans inuits, afin de gagner pour leur tribu du gibier à chasser, lui rendaient visite et devaient lui peigner les cheveux, et elle, en reconnaissance, libérait alors ses animaux au grand plaisir des chasseurs. Mais elle règne aussi sur l'Adlivun, habituellement décrit comme un vaste territoire gelé. Sedna y est souveraine, et les aînés nous racontent encore aujourd'hui qu'elle emprisonne les âmes des vivants afin de les préparer à la prochaine étape de leur voyage final. Absolument fascinant et honnêtement, je suis des plus fiers à avoir l'occasion de vous partager un brin de notre patrimoine inuit sur ces ondes sauvages. Alors passons-y, voici Beluga de Katie Midkelf, accompagné de la musique de Crown of Assyria, précédé de Niflheim de Veneficium, et le tout commence immédiatement avec Gwyn ap Nudd, King of the Underworld, The Black Funeral!